talmudique. Au premier siècle de notre ère, dans un contexte de catastrophe imminente, la chute du temple, autrement dit la disparition même de sa civilisation, Rabbi Yochanan ben Zakkai, un des grands maîtres du judaïsme, se vit accorder une faveur exceptionnelle par l'empereur romain Vespasien. Il pouvait faire la requête de son choix, sans discussion, elle lui serait accordée. Contre toute attente, le maître demanda l'autorisation de construire une école. Une école contre la destruction, la demande peut sembler incongrue ou irresponsable. Et pourtant, on sait le devenir de cette confiance dans l'étude. Une civilisation fut sauvée, et avec elle, une certaine idée de l'humain, dont, comme le souligne Lévinas, la portée est universelle. L'aspect essentiel de cette mutation culturelle, il faut sans doute dire révolution, fut de prendre conscience que le livre, la lecture et l'interprétation sont plus forts que le glaive et que c'est par la culture de l'étude, par la relecture et les commentaires, par l'esprit critique que l'on développe ainsi, que l'homme et la société ont une possibilité de grandir et d'atteindre leur maturité. Kafka l'exprimait en une formule saisissante. « Ma patrie, le texte ». Et le 11 novembre 1848, Victor Hugo prononça à l'Assemblée nationale ce discours. « Il importe, messieurs, de remédier au mal. Il faut redresser, pour ainsi dire, l'esprit de l'homme. Il faut, et c'est à la grande mission spéciale du ministère de l'Instruction publique, il faut relever l'esprit de l'homme, le tourner vers Dieu, vers la conscience, vers le beau, vers le juste et le vrai, vers le désintéressé et le grand. C'est là, et seulement là, que vous trouverez la paix de l'homme avec lui-même, et par conséquent, la paix de l'homme avec la société. Pour arriver à ce but, messieurs, que faudrait-il faire ? Précisément, tout le contraire de ce qu'ont fait les précédents gouvernements. Précisément, tout le contraire de ce que vous propose votre comité des finances. Outre l'enseignement religieux, qui tient le premier rang parmi les institutions libérales, il faudrait multiplier les écoles, les chaires, les bibliothèques, les musées, les théâtres, les librairies. Il faudrait multiplier les maisons d'études pour les enfants, les maisons de lecture pour les hommes, tous les établissements, tous les asiles où l'on médite, où l'on s'instruit, où l'on se recueille, où l'on apprend quelque chose, où l'on devient meilleur. Il faut faire pénétrer de toutes parts la lumière dans l'esprit du peuple, car c'est par les ténèbres qu'on le perd. Fin de citation. Peut-être avions-nous cessé d'y croire tout à fait. Nous ne pensions plus, avec lui, qu'une école fermait une prison, ou du moins avions-nous de bonnes raisons d'en douter. Mais aujourd'hui, tous les yeux et les espoirs se tournent de nouveau vers l'école, malgré les reproches qui lui sont adressés, plus que jamais pressentis comme un rempart infaillible au délitement de la société et à la folie du monde. Et l'école peut en effet être encore le lieu d'où s'élève la pensée, où se déjouent les certitudes et se réaffirment les repères. J'en fais l'expérience depuis 15 ans, en intervenant régulièrement dans un lycée, que l'on dit de banlieue, le lycée des métiers Camille Claudel de Mantes-la-Ville. C'est pour cette raison qu'avec l'accord de Sandrine Trainer, directrice de France Culture, et de Laurent Bonsergent, proviseur de cet établissement, que j'ai proposé en septembre dernier à une classe de BTS de construire une émission de talmudique autour de la commémoration du 11 janvier. Nous avons inauguré ce travail le 9 décembre, journée nationale de la laïcité, endeuillée par les attentats du 13 novembre. Extrêmement éprouvés, ces étudiants se sont mobilisés pour mener à bien ce travail jusqu'à ce jour. Je cite par exemple une étudiante, « J'affirme l'importance de lutter rapidement. Il faut s'unir pour montrer la force de la réflexion et renforcer l'idée d'unité. Ces étudiants se disent meurtris et se sentent de plus en plus désemparés, de plus en plus impuissants. » Particulièrement interpellé par un texte de Frédéric Worms, publié dans Libération le 4 décembre 2015, intitulé « Y aura-t-il un 11 janvier après le 13 novembre ?», ils m'ont proposé de réfléchir à la parole en état d'urgence. Dans cet article, Frédéric Worms traduit concrètement les idées qu'il défend au fil de ses chroniques dans ce journal depuis janvier 2015. Il suggère l'institution d'une journée nationale de la discussion critique. En quoi l'échange intellectuel, ont demandé les élèves, peut-il être garant de la cohésion nationale? Comment, dans quelles conditions, avec qui et selon quelles règles est-il possible d'imaginer une telle journée? Pour quel bénéfice réel? La discussion critique peut-elle faire le poids contre le terrorisme et le danger qui nous menace? Voilà quelques-unes de ces questions Frédéric Worms, bonjour.
Bonjour Marc-Alain Wacknin.
Frédéric Worms, vous êtes philosophe, professeur de philosophie à l'École Normale Supérieure, dont vous êtes le directeur adjoint de la section Lettres. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux ouvrages, dont récemment « Revivre et penser à quelqu'un ». Vous écrivez, comme je viens de le dire aussi, régulièrement une chronique philosophique dans « Libération ». Je suis très heureux de vous recevoir et je vous remercie au nom de tous les étudiants et de Françoise-Anne Ménager d'avoir accepté cette invitation et soutenu par vos encouragements cette initiative. Alors, pour ouvrir cette conversation, Frédéric Worms, pourquoi cet appel ? Pouvez-vous préciser ce que vous entendez par discussion critique ? Il y a deux termes, il y a critique et il y a discussion.
Oui, d'abord, merci beaucoup à vous de cette invitation et de ce relais, j'allais dire, qui passe à travers les élèves de cette classe. Ça me touche évidemment très profondément parce que je pense que c'est une façon déjà de commencer la discussion, de reprendre au bon une parole. Et discuter, c'est d'abord, en effet, une parole qui en reprend une autre. Et j'ai vu les devoirs que Françoise-Anne Ménager et vous-même avez, enfin les écrits de ces étudiants. Et ce qui m'a frappé tout de suite, c'est justement que cette discussion sur la discussion commence par un débat un peu critique. C'est-à-dire, au fond, les uns sont pour, les autres sont contre. Et est-ce que la critique, la discussion, dans un cadre scolaire peut répondre à la violence dans un cadre idéologique, dans un cadre politique. Je crois que c'est déjà prouvé en acte, au fond, l'intérêt de la chose, l'intérêt d'une discussion qui, à la fois, le propre d'une discussion critique, c'est de concilier les deux choses qui peuvent paraître contradictoires. C'est-à-dire, pour discuter, il faut d'abord un certain nombre de choses sur lesquelles on est d'accord. D'accord pour ne pas s'entretuer, d'accord pour constituer un cadre, d'accord au fond pour partager déjà un objet commun, un intérêt commun, une question commune et un certain nombre de principes. Et au fond, donc, cet accord est déjà politique. Si on discute, c'est déjà qu'on n'est pas dans la guerre, c'est déjà qu'on a un certain nombre d'objets communs. Mais pourtant, discuter, c'est aussi fondamentalement ne pas être toujours d'accord et procéder à des distinctions. Pour moi, le sens du mot critique, c'est au fond presque synonyme de distinction. Critiquer, c'est distinguer, presque aussi au sens étymologique, où on sait que la crisis, c'était un tamis, un filtre pour distinguer le bon grain du mauvais grain. Et au fond, pour moi, l'exigence critique, c'est toujours derrière des choses qui semblent simples et évidentes. Par exemple, disons, le bien et le mal, ou bien l'ami et l'ennemi, montrer qu'il faut faire des distinctions. Toute critique consiste dans des distinctions. Montrer que dans une chose apparemment simple, il y a autre chose derrière. La critique de la raison pure de Kant, par exemple, c'est montrer que derrière la connaissance qui paraît une chose simple, il y a deux choses différentes. Il y a des choses qui viennent des objets, qui sont des sensations, des expériences, comme il dit, et il y a des choses qui viennent de l'esprit dans sa structure même, qui ne dépendent pas de l'expérience. Donc critiquer, c'est distinguer. Et ça vaut pour tous les domaines, hein. Et je crois que c'est extrêmement important parce que, au fond, rien n'est aussi simple que cela en a l'air. Et la simplicité, en fait, crée des distinctions non critiques, c'est-à-dire des partages qu'on n'interroge pas et qui sont d'autant plus violents. Par exemple, on dit eux et nous. Or, dans chacun de ces eux et de ces nous, il y a évidemment des gens qui sont violents, des gens qui ne le sont pas. Et donc, le geste de la distinction critique, de mettre des distinctions là où, en apparence, il n'y en a pas, n'est pas un geste de complication gratuite, est un geste plutôt de
clarification.
De clarification et de la condition même pour penser. Et donc, le propre de la discussion, c'est qu'elle concilie un accord sur certaines choses, sur un cadre, et la possibilité de discuter. Et je crois que c'est de cela dont nous avons besoin. Le 11 janvier, par exemple, typiquement, cette manifestation il y a un an du 11 janvier, elle insistait plus sur le commun, sur les principes communs, le crayon qui était levé, la liberté d'expression. Mais en réalité, cet esprit du 11 janvier, c'était un esprit critique. Les gens qui défilaient n'étaient pas tous d'accord. Il y a ceux qui ne défilaient pas, qu'il ne faut pas non plus figer en un groupe. Il y a plein de raisons de ne pas avoir manifesté autant qu'il y en avait de manifester. Mais je crois que l'idée, c'est toujours à chaque fois articuler des principes communs et dans ces principes communs, permettre la discussion critique.
Alors, vous dites qu'il faut être d'accord. Au moins, on commence par être d'accord sur certaines choses. Et une des choses sur lesquelles on se met d'accord, c'est le langage. Or, les mots, parfois, n'ont pas le même sens pour tout le monde. Donc, j'ai vu que vous aimez bien l'expression mettre des guillemets aux mots. Et je pensais à cette idée de Wittgenstein qui dit qu'il faut parfois envoyer les mots au nettoyage pour ensuite les réutiliser. Et là, par exemple, vous nous donnez un exemple de nettoyage du langage avec ce terme de critique qui a un sens parfois pour les élèves, en tout cas, et pour beaucoup de gens, un goût légèrement amer dans la bouche. Ils disent, par exemple, qu'est-ce que tu peux être critique, ou la critique est aisée. Et on entend ça comme un jugement négatif ou d'opposition. Alors que, comme vous voulez, venez de le dire, krino, en grec, c'est juger, ça a donné krites, qui désigne simplement une personne qui énonce un jugement. Et puis, ça pouvait être aussi un arbitre chargé de trancher un différend, un historien dont le métier nous rappelle un auteur grec et de traiter les données brutes dont il dispose à la manière d'un juge. C'est aussi un interprète des rêves. C'est aussi les citoyens athéniens qui sont appelés à juger le redoutable concours de théâtre. Donc, en commençant, c'est juste par cet exemple que vous avez pris, on voit qu'il y a cette notion de nettoyage du langage, Frédéric Worms.
Oui, parce que en fait, il faut bien voir que on ne vit pas dans un univers silencieux et on passerait tout de suite à la discussion. En fait, la discussion critique, justement, mettant des guillemets autour de critique pour discuter ce mot lui-même, la discussion critique intervient dans un univers saturé de langage et de langage non interrogé. Et les événements, surtout quand ils sont graves, nous parviennent accompagnés d'un cortège de mots, en quelque sorte, qui s'imposent et qui parfois ajoutent à leur violence, parfois cherchent à s'y opposer, mais même quand ils cherchent à s'y opposer, peuvent produire des effets pervers, des effets secondaires. On a raison de on s'exprime spontanément et on a raison. Mais dans un deuxième temps, il faut réfléchir. On dit, par exemple, ce sont des actes de barbares. Bon, on a raison, je crois, de dire que ce sont des actes barbares, mais est-ce que par là, on ne risque pas de figer dans une essence non seulement ceux qui ont commis des actes, mais toute une communauté ? Donc aussitôt, il faut, dans un deuxième temps, je pense que le propre de la critique, c'est d'arriver dans un deuxième temps. C'est un langage sur le langage, mais c'est indispensable justement à cause de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la vie humaine n'est jamais seulement faite de choses qui nous tombent dessus, d'événements et de choses naturelles, même le tsunami, des événements naturels nous arrivent toujours à travers une interprétation humaine. Et c'est donc le propre de l'homme, c'est d'être non seulement un être de langage, mais un être qui, à travers le langage, réfléchit son existence, comprend son existence, fait des distinctions. Et donc, en effet, les mots qui nous parviennent comme ça, qui sont dans la concurrence des discours, dans les idéologies, il faut commencer par les assumer et puis ensuite leur mettre des guillemets. L'acte des guillemets, l'acte du suspense, c'est l'acte de la réflexion par excellence. C'est ce qui nous permet, paradoxalement, c'est en discutant le langage qu'on peut discuter entre nous.
Alors là, vous dites discuter le langage pour discuter entre nous. Donc la discussion, elle commence déjà même au niveau du langage. Et j'ai l'impression que cette discussion qui porte à la fois sur le langage pour se mettre d'accord avant de discuter sur le fond, reprend quelque chose de très caractéristique de la pensée talmudique où il n'y a aucune chose qui est présentée sans discussion entre les maîtres. Dès qu'un maître dit quelque chose, vous avez un maître qui dit le contraire. Et je me souviens de cette histoire que je raconte souvent de Rabbi Yochanan, un très grand maître, qui ayant perdu son compagnon d'études, on lui propose un autre compagnon d'études. Et lui dit, mais ce compagnon d'études, pour chaque interprétation de Rabbi Yochanan, apporte 24 preuves qu'il a raison. Et lui dit, mais j'ai pas besoin de savoir que j'ai raison. Si je dis ce que je dis, c'est parce que je pense que j'ai raison. Avant, avec mon autre compagnon d'études, celui qui est mort, Resh Lakish, sur chaque chose que je disais, il me posait 24 questions et j'essayais de répondre et le Talmud s'augmentait. Et il était tellement triste qu'il est sorti dans les rues de Jérusalem, il a déchiré ses vêtements, il pleurait, il disait « Où es-tu, Resh Lakish ? Où es-tu, Resh Lakish ?» Et il est mort à son tour et les maîtres disent, et c'est comme cela que je l'ai traduit, on a le cas d'un homme qui est mort fou d'avoir raison, c'est-à-dire d'être enfermé dans la certitude de sa pensée. Est-ce que la discussion critique que vous proposez va tout à fait dans va dans ce sens.
Oui, tout à fait. Ça rejoint de très grandes traditions, comme celle que vous évoquez, et aussi à l'origine même de la philosophie, la tradition de Socrate, évidemment. Socrate aussi. Socrate, c'est quelqu'un, un philosophe comme Bergson l'a rappelé dans un très beau texte sur l'intuition philosophique, c'est quelqu'un qui accédait au principe à travers l'expérience du désaccord sur des points limites. C'est-à-dire, et Bergson définissait l'intuition philosophique par cette expérience, non pas d'une vision mystique évidente, l'intuition pourtant c'est ça en apparence, mais par l'intuition plutôt dans la discussion d'un point de désaccord qu'on ne peut pas dépasser. Il disait l'intuition se signale d'abord par un refus, ça non, ça n'est pas possible. Et donc par exemple cette expérience du désaccord, cette expérience de la question, de l'impossibilité d'accepter une thèse qui fait violence selon nous à l'humain dans son essence. Par exemple quelqu'un qui me dirait, qui défendrait devant moi, peut-être je sais pas, sur le ton du bon sens, au fond un peu de racisme, pourquoi pas, etc. Là j'aurais quelque chose en moi, une petite lumière, un petit clignotant qui s'allumerait et qui dirait non, ça n'est pas possible. Et je serais obligé de le justifier. Et c'est ça le commencement de la pensée humaine. Au fond, c'est ce que nous ne pouvons pas accepter. Merleau-Ponty aussi le disait, la philosophie commence avec le sentiment de l'inacceptable. Et peut-être, au fond, c'est ça aussi, c'est que les principes communs, c'est pas par hasard si on les retrouve quand ils sont agressés. C'est qu'au fond, on les oublie quand tout va bien. Nous parlons là, sans même en oubliant. Et puis, si quelqu'un venait nous interdire de discuter, on dirait, mais non, mais ça va pas. Et ça ne va pas. Ce sentiment que les principes surgissent dans le désaccord, c'est ce qui rend la discussion nécessaire, parce que ça ne veut évidemment pas dire que le maître et son élève vont se disputer, ça veut dire qu'ils se servent l'un de l'autre pour accéder à des principes communs à travers ce que ni l'un ni l'autre ne peuvent tolérer. Il y a de l'inacceptable commun qui fonde l'humanité.
Nous sommes en train d'entendre Frédéric Worms, Revolution des Beatles. Alors, les paroles nous disent, si c'est par la destruction, il faut pas compter sur moi. C'est-à-dire que la révolution, oui, mais pas par la force, pas par la violence. La question est comment changer le monde. Et les élèves vous ont posé cette question, est-ce qu'un rite, le rite de l'instauration d'une journée de la discussion critique une fois par an peut être révolutionnaire? Est-ce qu'un rite, ça semble plutôt traditionnel, et la tradition et la révolution, ça va pas vraiment ensemble, à moins que on doit penser la révolution, comme le disait Camus, comme révolte, c'est-à-dire comme volte-face. Peut-être ce que vous disiez juste avant sur l'inacceptable, le moment de l'inacceptable, et je pensais à la dernière émission talmudique la semaine dernière, où notre invité, André Tuboeuf, parlait de Adolphe Busch, qui était le plus grand violoniste du début du XXe siècle allemand, qui, dès 1933, et même a dit « le nazisme, c'est inacceptable ». Donc, il s'est opposé, qui a fait volte-face, qui s'est... Voilà, maintenant, ce rite, qu'en est-il? Comment, concrètement, vous demandent les élèves?
Alors, d'abord, je vous remercie, et vos élèves, et vos interlocuteurs aussi, d'avoir pris au sérieux cette idée de faire quelque chose finalement avec ce 11 janvier et de faire quelque chose qui tourne autour précisément de la discussion critique. L'idée d'en appeler à l'institution d'une journée nationale de la discussion critique, au fond, est plus un... Il faut peut-être pas y voir une solution, un appel à une invention ponctuelle qui serait une solution universelle. C'est plutôt un appel à la réflexion justement sur ce qu'on disait, c'est-à-dire la nécessité de prolonger ce qui s'est manifesté là, de l'instituer d'une certaine façon sous ces deux aspects, ces aspects d'institution commune et de discussion critique, mais évidemment pas en le figeant forcément sur une seule journée qui risquerait de tomber dans les mauvais côtés du rite. Le rite a des mauvais côtés, c'est-à-dire le côté d'instituer une répétition un peu formelle qui nous permet de nous dispenser de l'expérience de ce dont il y a répétition. Et par exemple, on fête des événements, la fête devient un objet et on oublie pourquoi. Et c'est le risque de toutes les fêtes, c'est le risque de tous les rites. Et donc, en réalité, ce qui serait intéressant, ce serait plutôt d'instituer quelque chose, peut-être, mais qui, évidemment, réveille quelque chose de vivant, la discussion critique dans ce qu'elle a de vivant. Et au fond, même pour dire, le 11 janvier, on le marque, mais on le fait tout le temps. Et je suis très sensible aux arguments de certains des élèves qui disent, mais il y a des journées de ceci et de cela, du racisme, de la femme, du sida, de je ne sais quoi, et elles ne servent à rien. Ça n'est jamais entièrement vrai. La mémoire publique marque quand même des choses. Le rite inscrit des choses. C'est des rites républicains, il faut le souligner. C'est des rites démocratiques, c'est pas des rites religieux. Et en même temps, ça ne marche que si, d'abord, c'est vivant ce jour-là. Ça sert à faire avancer des causes concrètes. Et beaucoup de gens s'en saisissent, les associations se saisissent. Le jour du sida, le 1er décembre, la journée de la femme. Faut pas croire, peut-être que la plupart des gens restent chez eux, oublient, mais il y a quand même des associations qui s'en saisissent et ça permet de dynamiser des choses qui sont en effet très, très puissantes.
Mais là, c'est peut-être encore plus exigeant dans la mesure où c'est la journée nationale de la discussion critique qui pourrait être préparée en amont. C'est-à-dire qu'en fait, toute l'année, les étudiants, les élèves des lycées, des universités, etc., pourraient se préparer à un thème. Par exemple, on dirait que le thème de l'année de cette année serait tel thème, et puis on s'y préparerait comme des sportifs. Je pense à ce texte de Jacques Bouvresse qui commente Paul Valéry, s'appelle « De la philosophie considérée comme un sport ».
Oui.
Et l'idée, c'est que l'intelligence, c'est un sport. C'est-à-dire qu'on ne peut pas discuter de manière naturelle, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il faut se préparer avec la construction d'un langage précis, avec des concepts précis, des arguments précis. La philosophie, c'est pas le café du commerce.
C'est pas le café du commerce, mais la philosophie commence dans le café du commerce. Moi, je crois beaucoup que la philosophie commence par les questions spontanées qu'on pose face à des événements graves, et que le café du commerce, c'est un peu ça. Quand on dit « ça ne va pas », c'est dans le café du commerce, mais ça, c'est le début de la philosophie. Le café du commerce, en tant qu'il est non pas la reproduction d'opinions toutes faites, mais le surgissement d'indignation, de questions, et aussi parfois d'émerveillement, hein, d'étonnement joyeux. Mais quand même, c'est là que surgissent les questions philosophiques. Quand Guilhem, qui était un philosophe du normal et du pathologique dans la médecine, de la maladie, disait, au fond, l'humain, c'est de dire « c'est pas normal ». Quand on dit « c'est pas normal », moi, je crois qu'on se demande qu'est-ce qui n'est pas normal, qu'est-ce qui ne va pas. C'est le commencement de la philosophie, comme on disait. Mais ce qui est intéressant sur le 11 janvier, c'est justement de le mettre lui-même entre guillemets. On voit déjà qu'il y a des dates qui se fixent, comme ça, disons le 14 juillet, le 11 novembre. Le 11 janvier est curieusement surgi comme une sorte de date positive en réponse à des événements tragiques, le 7, le 8 et le 9 janvier qui ont précédé, trois attentats avec chaque fois une signification différente. C'était déjà une date très complexe, qui ne pouvait pas faire disparaître les dates négatives, qui avait un sens positif. Et un an après, ce dont on s'est aperçu déjà, quand on a voulu non pas commémorer, parce que justement, je crois que c'est instituer la discussion, c'est justement dire que ça n'est pas seulement une commémoration, c'est aussi un rite, entre guillemets, contre d'autres possibles, donc contre des rites un peu vides. Mais déjà, un an après, donc, en 2016, le 11 janvier a changé de sens. Il y a eu toute une année qui est passée avec la question des migrants, avec des récupérations intellectuelles et idéologiques, avec des élections en France et ailleurs, avec malheureusement aussi une sorte de répétition différente le 13 novembre à Paris et ailleurs dans le monde. Faut pas oublier non plus les... Donc, une date à condition qu'elle ne soit pas figée dans un sens préétabli, dans une évidence factice, mais qu'elle permette chaque année de manière différente, et malheureusement, je crois que chaque année, ce 11 janvier va se colorer différemment, de reprendre ce qui s'est passé, de réfléchir. C'est un peu comme un anniversaire, au fond, au sens où un anniversaire, c'est pas seulement une commémoration, fêter quelqu'un de manière vide, c'est un an de plus, c'est une occasion de réfléchir sur ce qui s'est passé, sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on partage avec les autres, sur ceux qui sont apparus, disparus, entre-temps, sur... voilà, ce sont des occasions, le temps humain, ça n'est pas seulement une sorte de ligne dans un espace vide, c'est une sorte de temps relationnel où les boucles, les retours et les relances sont constitutives de la vie.
Alors vous dites l'anniversaire, je pense au terme hébraïque qui est en yiddish, qui dit le yahrzeit. Le yahrzeit, c'est le jour de la commémoration de la mort de quelqu'un, qui est justement très souvent, enfin dans la majorité des cas, fêté par une étude. Et je trouve ça extrêmement intéressant dans cette convergence des intelligibilités. Et dans votre article, vous dites que pourquoi le 11 janvier, d'une certaine manière, par rapport aux dates qui précèdent, parce que ça a été une marche de silence et que ce silence, en fait, a fait naître un désir de parole.
Exactement.
Et a fait surgir cette parole. Et il y a une très belle phrase dans votre article que je voudrais lire. Vous dites « Laissez surgir cette parole, car elle n'est pas seulement la parole qui affronte le retour des fantômes, mais celle qui invente le renouveau des problèmes et donc aussi des manières de les affronter. » Frédéric Worms.
Oui, voilà, parce que effectivement, je crois que la parole n'oublie pas ce dont elle vient, qui peut la sidérer, l'avoir frappée, l'avoir suscitée comme une exclamation, et en même temps, elle contient toujours déjà une façon de refaire de l'expérience un problème, de chercher des solutions, de poser des principes, et surtout de retrouver un monde commun. Donc la parole, c'est certainement pas simplement un commentaire bavard, c'est pas simplement non plus une sorte de rituel justement. Vain est toujours le même. La parole, c'est la différence. La parole, c'est le recommencement ici et maintenant. Je crois qu'il y a un risque qui est de la répétition du passé et un autre risque qui est dans simplement la promesse d'un avenir radieux. Demain, tout ira mieux. En fait, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut commencer. Je pense que le propre de la parole, c'est qu'elle n'attend pas. Et c'est vrai que vous avez raison de parler de l'urgence de la parole. Moi, je crois qu'il faut prendre la parole quand elle surgit. C'est pour ça qu'on a besoin d'être auprès les uns auprès des autres et de créer des institutions. Des institutions qui la permettent. Vous parliez de l'école au début. L'école, le café, même les lieux intimes sont des lieux qui permettent de formaliser ce qui ne peut pas l'être. Des lieux où on peut s'asseoir et puis après dire, bon, ben, maintenant, qu'est-ce qu'on dit ?
Alors, le 11 janvier...
Instituer l'ininstituable. Il faut des cadres. Paradoxalement, la liberté a besoin de cadres, mais qui peuvent se retourner contre elle. Et donc, dans ces cadres, il faut remettre de la parole libre.
Alors, le 11 janvier dernier, justement, il y a quelques jours, vous avez, à Normalsup, consacré, d'ailleurs en partenariat avec France Culture, une journée. Qu'est-ce qui s'est dit dans cette journée à Normalsup ?
Vous voyez, justement, c'était aussi ce partenariat, une manière de dire, il y a différentes manières d'instituer le cadre libre pour cette parole. Il y a des lieux de discussion publique, comme la radio, il y a des lieux d'enseignement, mais qui sont aussi des lieux de parole libre, qui doivent l'être, où il y a une demande de parole. Et donc, on a voulu justement articuler les registres. L'enseignement est une parole importante. On a donc mobilisé quelques cours qui permettent de donner les outils pour réfléchir en mobilisant ceux qui l'ont bien voulu, hein, les cours de ceux qui avaient un rapport avec l'événement. Autant il y a un mouvement de l'événement vers la réflexion, la parole qui surgit de l'événement et qui se donne ses instruments, autant il doit y avoir aussi le mouvement inverse, depuis le savoir vers l'événement, vers ce qui préoccupe les gens. Et donc on a alterné les moments d'enseignement, les moments de débat, pour montrer que c'est ces différents registres de la parole dont on a besoin.
Et quel conseil, vous parlez de concept, quel conseil vous donnerez à ces élèves qui ont consacré beaucoup de séances de leur scolarité à ces étudiants de BTS, par exemple?
Je crois qu'il faut leur donner comme conseil à la fois de discuter entre eux et d'essayer de rechercher ce qu'ils pensent au fond, eux-mêmes, à travers des lectures et à travers les discussions aussi, de chercher ce qui est vraiment important pour mener une vie juste, comme dit Ricoeur aussi, avec et pour les autres. Mais vraiment, cette dimension de recherche me paraît extrêmement importante. C'est-à-dire que ce qui leur tient vraiment à cœur, au fond, ils ne le savent pas entièrement. Et donc, il faut faire de l'histoire, de la philosophie, mais aussi au niveau le plus modeste. Hein, je ne dis pas qu'il faut faire des grandes études, mais je dis qu'il faut chercher à comprendre ce qui est important pour nous.
Pour revenir au terme de critique que vous avez évoqué au début, je pense que, et vous avez dit que ces crises, c'était le tamis, je pense à un texte de Daniel Mendelssohn dans « Si vaut si fragile » qui rappelle que « crisis », c'est aussi la crise qui, en grec, désigne une séparation, une faculté de discernement, un jugement, un moyen de juger, une décision d'en parler. Car qu'est-ce qu'une crise, sinon, dit-il, un événement qui nous contraint à distinguer entre l'essentiel et le futile, qui nous force à mettre à plat nos priorités, à appliquer les critères les plus rigoureux et à juger les choses? C'est ce que vous venez de dire, Frédéric.
Oui, sauf que, vous voyez, le mythe de la crise... Le risque avec l'idée de crise, c'est de croire qu'un événement peut faire le travail de la pensée humaine. Or, la crise, on dit toujours la crise va trancher, ou bien au contraire, la crise va être la catastrophe. Il faut justement remplacer la fascination pour la crise par le désir de la critique. Et la critique, c'est pas juste un jour un événement catastrophique qui va trancher, c'est le travail constant de l'être humain.
Merci Frédéric Worms. Les auditeurs, les étudiants qui vous écoutent comprendront que j'ai le désir de poursuivre cette conversation avec vous, ce que nous ferons la semaine prochaine autour d'une question qui est articulée avec ce que nous venons de dire, avec la question de la conscience éveillée, de la conscience du temps. Merci encore, c'était Talmudic, une émission de Marc-Alain Wachnin préparée avec Françoise-Anne Ménager et les étudiants de la classe de BTS MUC du lycée Camille Claudel de Mantes-la-Ville, que je salue très chaleureusement et encourage à continuer de développer une si belle curiosité intellectuelle.
Peut-être irons-nous les voir ensemble un de ces jours.
Eh ben, merci de ce beau cadeau que vous leur faites en leur annonçant cette bonne nouvelle. À la prise de son aujourd'hui Bruno Mourlan, à la réalisation, comme d'habitude, Dany Journeau. Vous retrouverez tous les détails biographiques et bibliographiques de notre invité sur le site de France Culture à la page Talmudic, Koltouv, Leitraot. Au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.